perdre connaissance.
Je te compte-tu celle de mon prof de biochimie?
Ouais.
Mon prof de biochimie,
ouais.
Il nous compte qu'il est directeur du laboratoire, ben pas directeur, assistant de laboratoire.
Okay.
Et là, il amène un cadavre, parce qu'il est à l'hôpital, il amène un cadavre ouais. dans l'ascenseur. Puis lui, il a les pieds devant lui, puis il est dans le fond de l'ascenseur.
Ouais.
Et il nous dit que le cadavre s'assoit d'un coup sec, puis bleh, il vomit sur lui.
Ben non, ça peut pas arriver, là.
Il dit, je suis dans le fond de l'ascenseur. Écoute, je sais pas jusqu'à quel point il en a mis, là,
ouais.
mais c'est sûr que j'aurais pas voulu être là.
OK, mais c'est un spasme?
Un spasme, c'est ça. Le cadavre aurait eu un spasme.
OK, fait que quand t'es mort...
Demande-moi pas si c'est fréquent, je sais pas, j'ai pas investigué, là. J'ai pris son histoire pour acquise.
Fait que quand t'es mort, t'es pas tout à fait mort. Ça se peut qu'à un moment donné,
ouais, t'as des spasmes. Ouais, t'as pas ben oui, t'as du déclenchement électrique.
OK, puis c'est quoi? C'est l'air qui reste dans les
ouais,
poumons?
Ouais, l'air qui reste dans les poumons. Si t'as de la décomposition, tu vois, il y a des gaz qui vont être émis.
OK.
Et il faut que ça sorte à quelque part, là,
Mais tu sais, quand tu connais ça, tu travailles là-dedans, tu t'attends à ce genre de bruit-là. Mais tu sais, moi, quand il m'a raconté ça en ondes, c'est le point de perdre connaissance. Je restais au-dessus de l'épine et Cloutier, à côté des anciens cinémas Charret. Tu sais, je restais là pendant une couple d'années, je me suis mis chum avec les gars en bas. Mais à un moment donné, ils cherchaient du monde, tu sais, pour transporter des gens au cimetière. Puis là, je disais, payes-tu bien ça? T'sais? Puis me payez-vous mon linge? Parce que je trouvais qu'il était bien habillé. Je me trouvais un moyen d'avoir du linge qui avait du bon sens. Au lieu de m'habiller au comptoir Emmaüs qui était à côté, fait que je dis, oh, voyons, je cherche du monde. Il dit, il faut être fait pour ça. Je dis, ben voyons, il faut être fait pour ça. Il dit, ouais, ça arrive régulièrement que des individus arrivent, puis on essaie des formules. Finalement, on n'en entend plus parler. Puis il dit, le dernier qui est passé, on lui dit d'aller chercher de quoi dans la chambre, mettons, dans la chambre où ils mettent les défunts. Là. Puis, à un moment donné, c'est ça. Il y a un cadavre qui avait une serviette dessus, là, puis la personne a respiré, là, elle a expulsé l'air, puis il est parti, puis il n'a plus jamais donné de nouvelles.
Il y a un de mes chums, moi, qui me dit, moi, de nuit, ça me dérangera pas pantoute. Ah, oh, mais j'ai dit, viens long. J'ai dit, hey, c'est le laboratoire libre. Faut que j'aille faire mes études. Faut que j'aille étudier l'anatomie. Viens voir, tu verras. Fait qu'il arrive. Mais moi, je le fais installer à l'autre bout du caisson.
OK.
Ou la tête. Mais c'est pas que c'est la tête. Fait que j'ouvre les deux panneaux, puis je commence à craquer à manivelle. Mais là, il fait juste me regarder. Là, ouais. Je sais qu'il va mal. Et je lui fais juste un petit signe de tête. Regarde en bas. Il regarde. Et là, il voit le cadavre, juste la peau dans le visage, puis le cou tout dégagé.
Ouais.
Il a blanchi d'un coup sec. Le sang est passé de la tête jusque des pieds. C'était fini. On s'est en allé.
Ben, j'espère. Alors, faut être fait
c'est fort. C'était pas une bonne blague.
Ouais. Mais en même temps, tu sais, toi, les études que tu faisais, c'était très pertinent là, de pouvoir voir tous les muscles et tout ça. Là.
Ben, tu sais, c'est beaucoup de biomécanique, nous. Ouais. Tu sais, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'activité physique, faut que tu comprennes comment le corps en mouvement va répartir la force, les vecteurs de force, quels muscles sont en action, quel muscle fait quoi.
Ouais.
Plus tu en connais sur le corps humain, ben plus tu es avantagé.
Effectivement. Effectivement. Mais toi, tu as fait ça pendant un an, deux ans, travailler sur
les cadavres, c'était une session. C'était une cours session. D'anatomie qui était une session. Par la suite, ben, tu le remets en pratique parce que veux pas dans différents aspects de ce que tu fais. Il faut que tu connaisses quel muscle va travailler. Là, aujourd'hui, si tu me demandes, es-tu capable d'énumérer les 206 muscles du corps humain, je vais te dire non.
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 Il y a des petits bouts qui sont partis.
600 quelques os, là, non. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Mais si je reviens, je rouvre un livre et que, okay, j'ai tout replacé.
Okay. Toi, tes cours en médecine expérimentale, tu les as pris en quelle année?
Moi, j'ai fait mon baccalauréat de 1984 à 1987. Je suis revenu à la maîtrise en 1993.
OK.
Et c'est là que je suis rentré à l'hôpital Laval, ben, l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec,
oui.
Où là, je suis allé au laboratoire de physiologie de l'exercice. J'ai fait ma maîtrise 93 à 95. À 95, en médecine expérimentale, ça ouvrait une place au doctorat. Je suis rentré au doctorat, puis je suis resté à l'hôpital Laval. J'ai travaillé à l'hôpital Laval, donné des cours de gestion du stress. J'étais un des premiers intervenants de la clinique d'aide aux fumeurs là-bas.
Ah ouais?
Ah, c'était un milieu exceptionnel. Et moi, là, mes plus belles années de ma vie, là, pense hôpital Laval. Enfin, ben là, Institut universitaire de cardiologie et pneumologie. Ouais. Là. Écoute, c'était tellement passionnant. J'ai tellement appris de choses. Et mon directeur de recherche était quelqu'un de très ouvert. Moi, je m'intéressais beaucoup avec le lien entre le cerveau, l'esprit et le corps humain. Fait que moi, je pouvais brancher des gens sur tous les appareils,
ouais.
Les mettre en hypnose, tester les différents états mentaux, quelle influence ça allait avoir sa physiologie. J'ai fait des choses absolument incroyables. Il y a un de mes chums qui faisait de la recherche sur l'électromyographe. OK? Je vais te conter une affaire weird après. Et on avait fait une partie pour savoir est-ce que l'état d'esprit influence l'activité électrique. Alors moi, je mettais les gens en transe, en hypnose, parce que j'avais fait une formation en hypnose clinique. Et là, lui faisait toutes ses mesures. Et on est arrivé à voir que, écoute, c'était vraiment fascinant parce que je pouvais mettre quelqu'un en hypnose, OK, faire augmenter sa fréquence cardiaque, faire diminuer sa tension artérielle, ce qui n'est pas l'habitude. Là.
Non.
Donc, on arrivait à des choses de moins. Et la distorsion temporelle. Mettons, lui, c'est le réflexe de Hoffman. Et je salue, c'est Jean-François, il va se reconnaître s'il nous écoute. Lui, il envoyait des courants électriques dans le mollet. Fait que le pied sautait, là. C'est un courant électrique assez intense pour que le pied saute. La séance durait 45 minutes. À la fin, on demandait à la personne « Combien de courants électriques as-tu reçu dans le mollet? » La plupart disaient 10. « Combien de temps a duré la séance? » 15 minutes. La séance durait 45 minutes et il recevait 60 chocs électriques dans le pied. Il y avait une distorsion temporelle et sensorielle absolument fascinante. Okay. Et ça m'a permis de faire beaucoup de liens.
Fait que toi, t'es un petit poisson dans l'eau. Là.
Ah non, moi, c'était le bonheur, le bonheur absolu. Là. Tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai appris et à quel point ça m'a servi par la suite dans mon travail en réadaptation, en entraînement, en performance sportive, comment j'ai pu m'amuser avec des athlètes à modifier leur perception d'une situation. Mais comment ça, je suis aussi performant? Puis j'ai à peu près rien changé, tu m'as juste parlé un peu. Mais c'est que tu crées un autre cadre mental de référence.
Ouais.
Et c'est comme si tu places le corps dans une autre situation, il réagit totalement différemment. C'était tellement fascinant, c'était incroyable.
Tu jalouses-tu les étudiants qui sont en médecine aujourd'hui ou bien qui ont fait le même cours que toi? Tu sais, avec c'est ce que je t'ai montré tantôt sur Twitter, la modélisation humaine d'un individu qui fait une commotion cérébrale. Et là, tout d'un coup, dans la modélisation, on rentre dans sa boîte crânienne, puis on montre les effets de la commotion cérébrale sur le cerveau. Puis c'est quoi exactement la commotion cérébrale? Ça, je veux dire, pour en venir là, ça a pris des années, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un étudiant en médecine ou un étudiant comme toi qui regarde ça, on dirait qu'il est comme plus apte à comprendre ce qui se passe.
Bien, écoute, t'as tellement raison. C'est qu'à mon époque, tu devais lire un long chapitre. Donc, tu avais des photos en 2D, en deux dimensions, admettons le cerveau.
Ouais.
Tu as des photos en deux dimensions. Il faut que tu arrives dans ta tête à le modéliser en trois dimensions pour essayer de comprendre où sont placées les structures et comment ça fonctionne tout cet aspect-là. Et tu as des longs chapitres à lire. Mais moi, j'étais un des premiers à aller dans une nouvelle conférence scientifique qui s'appelait la modélisation humaine. La modélisation humaine, c'est comment tu expliques les choses en visuel pour que ce soit simplifié pour l'être humain.
Ouais.
Moi, j'allais présenter sur mon esprit qui était la physiologie, l'analyse physiologique. Et il y a un gars qui me dit, regarde, Denis, toi, là, ça, je t'explique ça, c'est une crémaillère. Moi, je fais de la modélisation pour l'éducation. Ça, c'est le livre qui explique une crémaillère. Si je te demande de lire pour les 20 prochaines minutes, vas-tu retenir quelque chose d'une crémaillère? Absolument rien. Il dit, je vais te la modéliser sur mon écran. Il me montre tous les engrenages, la crémaillère, que ça transmet la force d'une place à l'autre.
Ouais.
Ça prend 2 minutes. En 2 minutes, je savais tout ce que j'avais besoin de savoir, ce que je n'aurais jamais pu apprendre dans un foutu livre. Et aujourd'hui, avec toute la modélisation 3D, je trouve tellement que les gens ont une chance. Et ce que je trouve triste, c'est que l'éducation, à mon avis, ne va pas assez vite pour la capacité du cerveau des enfants.
Ah, hey, c'est gros ce que tu dis là.
Les enfants sont... Tu sais, oui, tu peux me parler de TDA et tout ça, là, mais pense qu'eux autres, là, ils jouent à des jeux.
Exact.
Ils ont une rapidité d'analyse et de concevoir le monde en 3D que toi puis moi, on n'a pas.
C'est ça. Moi, je devrais pas te dire ça. Ça me fait mal paraître en tant que parent, là, mais moi, le samedi puis le dimanche, ils ont des séances où ils peuvent jouer à leurs jeux vidéo, OK? Je pense que c'est 1 heure le matin puis 1 heure le soir, OK? Ça, c'est les séances où ils peuvent jouer à leurs jeux vidéo. Bien, souvent, des fois, le matin, quand je descends en bas pour faire le lavage, là, je vois que mon plus jeune, il a 6 ans, là, il joue aux jeux vidéo, il regarde une capsule YouTube, puis il joue à un petit jeu sur mon téléphone cellulaire.
Tout comme ça, c'est ça.
Bien, t'es peu, là. Ça veut dire qu'à l'école, là, quand le professeur, il parle lentement... Là,
ça marche plus.
Puis la matière arrive lentement, lui, il faut qu'il se trouve d'autres choses à faire, il se comprend plus.
Non. Fait que tu pourrais accélérer le rythme avec de la modélisation, parce que, écoute, notre transmission d'informations est encore verbal. Si tu lis, tu peux lire à la vitesse de tes yeux, ce que moi, j'ai appris. Tu regardes une page, tu descends 2 secondes, tu tournes, tu peux apprendre à lire à la vitesse de tes yeux. Mais nous autres, on apprend à lire à la vitesse de nos oreilles. On est obligé de répéter. Donc, quand tu lis, tu es obligé de lire chaque phrase, répéter chaque mot dans ta tête. Le temps que tu comprennes, le temps que tu visualises, Puis le temps que tu fasses un lien entre le début puis la fin, puis tu arrives à une conclusion de ce que tu as... C'est trop long pour le cerveau d'aujourd'hui, à mon avis.
Okay.
Mais quand tu arrives dans un monde de modélisation 3D, où là, tu arrives, tu dis, voici comment ça fonctionne un moteur d'automobile. Le jeune, il va te l'expliquer après, là.
Ouais.
Ça va y prendre une demi-heure. Mais si tu passes une session complète dans un livre, il a déjà tout oublié. Mais en modélisation, tu parles le langage du cerveau. Tu parles le langage de l'image. Je vais t'en donner une preuve. Regarde bien ça. Moi, je fais ça avec mes petits-enfants. Okay? Je fais des tests de mémoire. J'appelle ça un parcours mémoire.
Mm-hmm.
Je te donne des items. Okay? Mettons, arbre de Noël, pantoufles, piano, saxophone, gâteau. Déjà là, tu commences à être à la limite. Okay? Mais mettons que je te fais un parcours mémoire. Hey, on arrive à la maison de papy. Dans l'allée centrale, il y a un arbre de Noël. Quand tu rentres dans la maison, tu es obligé de mettre tes énormes pantoufles. Tu l'as vu. Puis là, à côté, il y a mamie qui joue du piano. OK? Et là, papy est juste dans le fond, puis il l'accompagne au saxophone. Et puis là, nous autres, après ça, bien, ça nous a donné faim, puis on va aller faire un gâteau.
C'est pas mal plus visuel.
D'accord. Ben oui, c'est ça. Tu as parlé le langage du cerveau,
ouais.
Qui comprend en images,
mm-hmm.
qui comprend en histoire. Comment la connaissance s'est-elle transmise depuis des millénaires? Elle s'est transmise à travers des histoires. Et on s'acharne à parler, déblatérer,
ouais.
expliquer de long
en large. En tant qu'enseignant, je me suis beaucoup amélioré parce que, tu sais, moi, les exemples d'enseignants que j'avais devant moi, c'était des enseignants qui étaient statiques, qui disaient les choses toujours de la même manière, qui montaient pas le ton, qui baissaient pas le ton. Ben, qui montaient pas le ton quand ils nous criaient pas après, là. Mais c'était toujours sur le même ton. Puis moi, c'est un collège privé où j'enseigne. Donc, j'enseigne à des gens qui ont 18 ans jusqu'à mon plus vieux. Il y a eu, je pense que c'était 48 ou 49 ans. Mais je me suis adapté. Tu sais, je me fiais sur le fait que je trouvais donc bien ça plate qu'un individu était statique. Puis j'ai repris le truc des humoristes. Les humoristes, là, ils se promènent toujours pendant leur spectacle. Ils se promènent à gauche, ils se promènent à droite, oui. avancent, reculent, baissent le ton, montent le ton, s'amusent, font les jokes, interagit avec les gens. Puis cette technique-là m'a appris à peaufiner mon enseignement. Ça a fait en sorte que, puis là, je peux me vanter un peu là-dessus parce que j'ai eu mes résultats. On est notés, nous autres, d'un collège privé. Ils nous obligent à être bons. Là. Ça m'écœure, tu sais. un collège privé qui t'oblige à être bon, c'est le collège Barthes. Fait qu'ils passent des questionnaires aux élèves. Puis là, ben, tu sais, là, pour la première année, en fait, je carrais tout le temps fort en tant qu'enseignant là, au collège. Mais là, pour la première année, c'est moi qui ai le meilleur résultat. Mais c'est en raison du fait que, justement, j'essaie de m'adapter aux jeunes d'aujourd'hui.
Ouais.
Puis j'essaie de pas toujours enseigner de la même façon. Fait qu'un cours, ça peut être ci, l'autre cours, ça peut être ça, mais j'essaie de varier, ce qui fait en sorte que les étudiants m'ont dit « Hey, c'est vraiment, cette année, t'es notre meilleur prof. » C'est un beau... C'est une belle qualité que j'ai, là, parce que j'essaie toujours de m'améliorer. Mais de l'autre côté, que les étudiants l'aient remarqué, ça me dit juste que si tous les gens prenaient exemple sur les façons d'animer, les façons de communiquer, toi, tu me dis on a appris par l'histoire. » Et ça dépend qui te raconte l'histoire.
Oui, il y a un modèle d'histoire. Hein? Peut-être tu t'expliques comment c'est étudié?
Ben oui.
Il y a une manière dont nos ancêtres ont raconté une histoire qui est ingrénée dans notre ADN.
Ingrénée,
excuse-moi. Engrénée. Oh,
on dirait qu'il y avait un parent qui veut grainer mon verre.
qui est dans notre ADN.
Oui.
Okay? La première chose qui se passe, c'est que tu as un problème qui se présente pour quelqu'un. Si je te parle de quelque chose qui ne t'intéresse pas, si je te parle de « Oh, moi, je suis extraordinaire, je suis fantastique », peut-être tu vas t'endormir. Mais si je te parle d'un problème à toi, okay?
Ouais.
Tu as un problème qui arrive, qui va t'entraîner des difficultés. Face à ces difficultés-là, toi, tu vas entreprendre des actions spécifiques qui peuvent t'amener à un climax qui est « ça va aller mieux ou ça va aller mal ». Et il y a un ending payoff. À la fin, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu racontes une histoire à quelqu'un, tu lui parles de son problème, OK, c'est ce que je fais dans mes podcasts.
Okay.
Tu lui parles de son problème. Il y a une évolution de sa problématique. Ça va? Il y a une crise qui se présente. Je suis écœuré, je ne suis plus capable de vivre le foutu problème. Il y a un climax. Le climax, il arrive, il faut qu'il prenne une décision. Et c'est là que toi, tu y arrives, tu lui proposes une solution et cette solution-là lui amène ce qu'on appelle un ending payoff dans l'écriture d'un scénario, qui est la proposition finale. Qu'est-ce que tu vas en tirer?
OK.
Et peu importe, que tu construises n'importe quoi, si tu le construis là-dedans, la personne a tout retenu. Et moi, je l'ai remarqué dans mon podcast, où j'ai, d'un dernier mois, ça a explosé, c'est que j'ai fait des shorts. J'ai ramené les histoires à du 60 secondes. J'étais habitué aux longues émissions comme on fait, mm-hmm. mais j'ai vu que sur le net, tout évolue en fonction de courtes vidéos.
Ouais.
Et j'ai commencé à appliquer les shorts, mais toujours sur la même structure. Il y a un problème qui se présente, tu penses de telle manière, il se passe quelque chose dans ta tête, voici qu'est-ce qui arrive et voici ce que je te propose de différent, voici le résultat que tu devras obtenir. Te parler exactement le langage qu'on comprend depuis des millénaires.
C'est bon, ça.
Et c'est comme ça que, c'est comme ça que les meilleurs scénarios fonctionnent.
Ouais.
Un des meilleurs scénarios au monde, Rocky, le premier Rocky,
ouais.
il a remporté un Oscar pour ça. Mais si tu parles de son histoire, c'est exactement ça. Le gars, c'est un nobody. Il veut devenir quelqu'un. Il y a une chance qui se présente à lui. Il apprend. Il doute. Il y a un entraîneur qui l'aide. Il développe du courage. Il va se battre. Il ne gagne pas dans le premier. Mais il voulait juste toffer 12 rounds. Tu comprends? C'était ouais. ça, sa victoire. Et tu as ce cycle-là qui s'est répété tout le long du film, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Fait que les meilleures histoires sont toujours construites comme ça. Ça déroge jamais de ça. C'est ouais. toujours la formule en arrière.
Je vais rester attentif.
Si on enseigne ouais. de même, comme de cette manière-là, mm-hmm. à mon avis, tu changes les choses. Et c'est ce que tu as fait. Tu as commencé à compter des histoires. Tu vas donner des exemples. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de donner un exemple de quelqu'un qui a réussi ou de quelqu'un qui a résolu le problème? C'est la meilleure manière. Quand même, je te l'explique verbalement, sur un ton monocorde, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi on admire tant les sportifs qui sont arrivés à des niveaux que toi, tu pensais inatteignables et que ça devient un idole pour toi? C'est qu'il te montre le chemin. Il t'a raconté sans le vouloir une histoire.
Ouais.
Et tu vas progresser vers ça. Il t'a ouvert le chemin.
Exact.
Tu vas le suivre. Mais toute son histoire est planifiée de la même manière. C'est vraiment impressionnant comment on apprend.
Je vais essayer de porter une attention particulière au scénario de film maintenant. Est-ce que les livres, c'est la même chose?
Le livre, ça doit être la même chose.
Ouais,
moi, mon directeur de recherche à la maîtrise m'avait dit, Denis, si tu veux que ta maîtrise soit bonne, ta thèse de maîtrise soit bonne, il faut que tu la racontes comme une histoire. Il faut que quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine, qui la lit, puisse la comprendre. Outre l'aspect des analyses statistiques.
Denis Boucher, j'ai une grosse question à te poser.
Ouais, vas-y.
M'a la poser à la manière du gros moustache.
Allons-y.
Docteur Denis Boucher, est-ce que vous êtes grossophobe?
Hey, c'est tous mes petits gros qui me font vivre.
Tu dépends des petits gros.
Je dépends des petits gros.
Ben oui, fait que tu peux pas ne pas les aimer.
Ben, je peux pas ne pas les aimer. Je fais rien que les aider à semaine longue.
Exact.
Tu comprends? Mais ce que le monde retienne, c'est ce que je dis dans les podcasts, ce que je dis à la radio, ouais. c'est que je les brasse. Tu peux. Regarde, une de mes publications aujourd'hui, c'était chers parents, il y a un jeune qui est là, il est gros, il est dodu. Chers parents, merci de contribuer à préparer mes clients du futur.
Puis il mange des frites. T'es baveux! Ah,
mais
c'était baveux.
Avoue que c'est une histoire qui se comprend.
Ben oui.
Si je dis aux parents. Là, le parent, là, c'est le même scénario que je viens de te créer. Là.
Oui.
Si je dis aux parents, il faut que tu fasses attention à tes enfants. Il
mm-hmm.
faut que tu leur apprennes à bien manger. Ils s'en califent. Mais quand le parent, tu l'as mis en pleine gueule, si tu ne t'occupes pas de ton flot, voici ce qui va lui arriver.
Il va finir avec Denis Boucher.
L'image que tu as dans ta tête,
ouais.
tu viens de te construire. Il faudra peut-être que je fasse quelque chose. Fait que peut-être que ce post-là, qui est détesté par 10 000 personnes, va aider 1000 personnes à dire il faut que je réagisse. Que je fasse quelque chose.
Ouais. Fait que t'es pas grossophobe, finalement.
Ben, écoute, ça fait 25 ans qu'ils me font vivre,
ouais.
les petits gros. Puis le monde aime ça. Il adore que, tu sais, salut mon dodu, hey mon petit gros, mon gros téléspectateur, ma grosse téléspectatrice, sois le bienvenu. Il triple là-dessus. Tu sais, sur mon site Internet ou sur ma page LinkedIn, si tu vas là, c'est « Je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. » C'est toutes des images où, au lieu d'essayer de paraître philosophique, de paraître un grand penseur, tu dis les choses telles qu'elles sont. Ceux qui n'aiment pas ça, allez vous faire foutre, j'en ai rien à faire. Mais les autres qui comprennent le message, il est pas mal plus puissant, à mon avis, que ce que vous entendez habituellement. Et c'est cette puissance-là qui va amener des gens à changer.
Oui. Doc Boucher, je vais commencer par dire que j'ai de l'empathie envers les gens qui ont des surplus de poids ou d'énormes surplus de poids parce que ces gens-là ont énormément de travail à faire puis ça prend énormément de courage. Puis, tu sais, je oui. suis de votre côté si vous voulez vous prendre en main. Puis maintenant, je vais dire ce que je veux dire. une fois que j'ai mis comme les choses en place.
Là. Vas-y, vas-y.
T'as-tu l'impression que la société tend à normaliser les gens qui ont des problèmes de poids?
Ah, beaucoup trop.
OK. Pourquoi on fait ça? Pour plus blesser personne?
Pour plus blesser personne, je pense. Le monde ne sont plus... on est d'une vieille génération. Moi, je suis plus vieux que toi. Mais on est d'une autre génération où nous autres, on se disait les choses directement. Puis, on pouvait se les dire assez solides, mais après, on allait prendre une bière ensemble.
Ouais.
Mais tout avait été dit. Tout était clarifié. Aujourd'hui, on ne veut pas faire de la peine à telle personne. On ne veut pas exclure telle personne. Il ne faut pas que personne se sente attaqué. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on normalise le fait d'être obèse. Et comme tu as 66 % de la population qui est en surplus de poids ou est obèse, ça devient plus facile de dire à tout le monde, c'est pas de votre faute. Votre métabolisme, il veut que vous engraissiez. Quand c'est tout de la merde, là. C'est pas vrai. Fait que là, alors le petit gros, lui, qui est assez large de nature, tu le places dans un contexte où il ne se sent plus responsable de son état. C'est pas de sa faute, son état. Penses-tu qu'il va faire un effort pour changer? Absolument pas. Tu le confortes dans ses comportements qui l'ont amené où il est aujourd'hui. Ton poids est la conséquence de tes comportements. Dans de rares cas, oui, ton métabolisme joue un rôle. Je l'ai vu, je l'ai mesuré, mais ce n'est pas un gros pourcentage de la population. Okay? Un demi de 1% de la population.
Mm-hmm.
Ça ne fonctionne pas.
Non. Tu sais, j'écoute des fois, je m'en vais sur TikTok, puis je perds mon temps sur TikTok, là, tu sais, entre la fille qui n'a pas de brassière à camisole blanche, là, puis d'autres choses là, drôles, puis des affaires. Il y a des histoires, des fois, qui passent, puis qui sont pertinentes, puis d'autres pas. Puis je suis tombé comme sur une vidéo d'une femme qui semble ne faire que ça de sa vie, là. Elle est sur TikTok, puis elle se met en déshabillé, puis elle montre ses formes. Elle doit peser entre 600 et 700 livres. C'est ouais. Pas, elle a de la misère à se lever de son lit, elle a de la misère à se lever de par terre, là, tu sais, puis elle se filme comme ça dans son quotidien, puis elle fait des petites vidéos de 15-30 secondes, puis elle marque toujours un genre de body positive ou comme quoi, tu sais, elle s'accepte comme ça, puis il y a des gens qui aiment ça quand c'est gros comme ça, puis je me dis, attends un peu, là, tu sais, elle a fait ça pour elle, pour essayer de s'accepter comme elle est, mais... c'est dangereux pour sa propre vie. Puis en même temps, oui. Ça devient un modèle pour les gens qui, eux autres, disent « Ah, ben, peut-être que je devrais perdre du poids parce que là, le diabète, il commence à être comme un cancer dans ma vie. Il faudrait que j'essaie de perdre du poids. » Puis là, « Ah, ben non, mais garde, elle a l'air à bien vivre avec ça. » C'est comme si ça devenait comme un modèle qui n'est pas, à mes yeux à moi, positif.
Hey, moi, je suis le contraire de toi. Je pense que c'est positif.
Oui.
Je t'explique pourquoi. Puis je le disais dans mon livre « Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. » Où elle est rendue, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a rien qui va fonctionner.
On ne peut pas se faire enlever une partie
ça ne fonctionnera pas. Là, comment je pourrais dire? Sa structure de pensée, ses comportements, oublie ça, ça ne changera pas. La seule chose qui lui reste, puis que je ne veux pas lui enlever, c'est de finir ses jours heureuse.
Ouais.
Et oui, tu peux me dire, Denis, ça coûte une fortune au système de santé, blablabla. Bla, bla. Oui, possiblement, mais peu importe son poids, elle mérite d'être heureuse. Et s'il y a des gens qui ne sont pas capables de revenir en arrière, des gens qui ont essayé des diètes pendant des années, qui n'y arrivent pas, moi, je leur ai dit dans mon livre, abandonnez tout ça, puis acceptez-vous carrément comme vous êtes. Et si elle les encourage à ça,
ouais.
Ben tant mieux. Donc, tu as quelqu'un qui va avoir une vie plus courte en obèse heureux. J'aime mieux une vie plus courte pour quelqu'un en obèse heureux qu'une vie malheureuse en obèse toute ta vie.
Non, je comprends.
Parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens, ça ne se réglera jamais. Et ça va être de pire en pire dans notre société. Je sais, tout le monde va pouvoir me revenir, me dire, « Ouais, mais Denis, la santé devrait mettre... tu sais, il devra faire attention, mais en quoi, toi, t'es mieux? »
Non, c'est ça. Puis c'est la même affaire pour ceux qui prennent trop d'alcool, ceux qui fument trop, ceux qui vapotent trop, ceux qui mangent des trucs qui sont peut-être néfastes pour ouais. Leur santé ou qui prennent des drogues. Je comprends tout ça, mais c'est juste l'image d'essayer de normaliser qu'une personne de 400 livres, ça devient comme normal. Non, non, elle a des problèmes de santé, cette personne-là.
Oui, exactement. Oui, mais aussi, je pense que l'éducation en arrière à faire, si tes enfants écoutent ça ou quoi que ce soit, regarde. Elle est devenue comme ça pour telle et telle raison.
Ouais.
Et pour ne pas arriver là, voici ce que tu dois faire. Et voici ce qu'on va faire en tant que famille. Moi, je pense que ça peut servir à beaucoup de gens pour dire, je ne veux pas devenir ça. Donc, quel comportement dois-je... C'est toujours comment tu recadres les choses. dans un contexte. Il n'y a rien de dangereux, là. Puis si tu ne veux pas l'écouter, tu n'es pas obligé de l'écouter sur TikTok.
Exact.
T'sais, tu vas ailleurs, tu vas faire d'autres choses, mais elle peut t'apprendre deux choses. Si tu es un obèse malheureux depuis des années, tu sais que tu vas finir ta vie obèse. Si elle te montre à devenir un obèse heureux et tu finis tes jours heureux, c'est ce que tu mérites. Tout le monde mérite de finir ses jours heureux.
Tu sais, il y a des gens qui aiment ces formes de corps-là. Puis moi, j'ai du respect pour ça. J'ai aucun problème avec ça. Il y a des gars qui écrivaient hey, t'es donc bien belle, puis écris-moi en privé. Ben, je suis même prêt à payer. Ouais, non, OK, c'est correct. Ils ont le droit d'aimer ça.
Ouais.
Tu sais, ça peut être attractif pour certains individus. Mais il reste que quand tu vois ça, tu te dis pauvre fille, elle n'est pas capable de se lever de la terre. Elle a besoin d'aide.
Oui, elle a besoin d'aide. Oui, absolument. Absolument.
Mais être heureuse.
Voilà. Voilà.
C'est important.
Dans notre monde, à nous autres, tu comprends que c'est pas nos valeurs. On ne partage pas. Ouais. Nos valeurs, c'est nos croyances quant au fonctionnement du monde.
Ouais.
Elles, son système de valeurs, il est tellement loin du tien et du mien qu'on a de la misère à comprendre.
Ouais.
Mais moi, ayant fait d'analyse de comportement humain depuis les 30 dernières années, pour évoluer dans mon domaine, il a fallu que je fasse abstraction des jugements. Oui, si tu m'écoutes sur Internet et tout ça, j'en mets là, du sarcasme sur le petit gros et tout ça, mais c'est pour créer une image dans l'esprit. Mais si tu viens me voir ou je jase avec toi, jamais je vais te juger. Et si je peux te donner un conseil qui va t'aider, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années, je vais le faire avec plaisir.
Ben oui.
Mais c'est le seul moyen qu'on a dans notre société pour aider les autres d'arrêter de porter un jugement. Un jugement t'oblige à classer une personne d'une catégorie, puis comme elle est dans une catégorie, tu ne seras jamais capable de penser intelligemment. Je vais te donner un exemple d'une catégorie. Okay? Je sors de l'entrevue, puis à 2h du matin, ça cogne à ta porte. Tu ouvres la porte, tu te dis, mais Denis, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je dis, Yannick, je fais un rallye. Je te donne 10 000 $ si tu me donnes un morceau de bois de 3 pieds par 7 pieds. Tu as 5 secondes.
Ouais.
Tu ne l'as pas?
Non.
Tu retournes dans ta chambre, tu accroches ta porte, tu dis, hey, j'aurais enlevé les gonds, je lui aurais donné ma porte, qui est à peu près 3 pieds par 7 pieds.
Ah oui.
J'aurais fait 10 000 $. Pourquoi tu n'as pas fait 10 000 $? Parce que la porte était dans la catégorie porte dans ta tête et non pas dans la catégorie morceau de bois 3 pieds par 7 pieds.
C'est ça.
Tu comprends? Je viens d'étendre ton monde. Le jugement nous amène à réduire le monde à une expression tellement simpliste qu'on ne voit pas comment on peut interagir plus intelligemment avec les autres personnes.
Tu me fais voir les choses d'une autre façon, Denis.
Merci, Yannick.
C'est la raison pour laquelle je t'invite à l'émission. tu me parlais de diète suppressive tantôt avant l'entrevue. C'est quoi ça?
Ben écoute, je vais te positionner la diète de façon différente.
Ouais.
De manière que tu n'as jamais entendu parler. Faire de l'activité physique.
Un peu, là. J'ai jamais entendu parler de diète. Je suis né avec la crème Budwig. Là.
Oui.
Probablement que mon père mangeait ça avant de faire couchi-couchi.
Sûrement.
Ah oui. Oh,
c'était extraordinairement populaire, la crème Budwig.
Exact.
Faire de l'exercice, c'est un comportement d'adoption. Tu adoptes un comportement. Si tu veux des résultats, tu vas le maintenir pour le reste de ta vie. Une diète, pas moi ce que je vais faire à mes clients. Moi, je veux leur donner un équilibre de vie. Une diète, donc un régime, manger moins de calories que ton métabolisme en a besoin, être en privation, c'est un comportement de suppression. Tu essaies de supprimer la faim, tu essaies de supprimer l'apport en calories dont tu as besoin. Et ça t'amène dans une situation obsessive. Pourquoi? Parce que tu ne fais que penser à ça. Si je te dis, Yannick, ne pense pas à un ours blanc. Quoi tu penses?
Faut que je pense à un poisson rouge.
Oui, mais l'ours blanc, là, faut
il est arrivé.
Il est arrivé dans ta tête.
Il est arrivé.
Il était là. Donc, toi, si tu es en comportement de suppression toute ta journée, faut pas que je mange. Pour ne pas penser à manger, faut pas que j'aille faim. Tu vires fou.
Ben oui.
C'est pas tolérable. Mais quand tu fais une petite transition, au lieu d'être dans un comportement de suppression, et tu amènes ça à un comportement d'équilibre où tu donnes à ton métabolisme l'apport en calories, protéines, lipides, glucides dont il a besoin, et que tu ne souffres plus de la faim et que tu perds du poids, ta perception, tu es sorti du comportement de suppression, tu es rentré dans un comportement d'adoption où tu sais que tu adoptes des comportements qui produisent des résultats, tu n'es plus en situation d'obsession. Mais le monde tient à leur obsession. C'est ça. Les gens croient tellement que les diètes sont efficaces parce qu'on leur dit « coupe tes calories, tu vas maigrir ». Et je vais te faire la preuve dans 5 secondes que c'est pas vrai. Les gens, ils tiennent. Et tu leur dis « tu vas manger plus et tu vas maigrir », ça fait aucun sens dans leur tête. Mais sur un plan physiologique, c'est la seule réponse normale du corps humain pour brûler du gras. Si tu le prives de nourriture, puis je te l'ai dit, je pense, ça fait 4-5 fois ici, tu te prives de nourriture, ton métabolisme va ralentir. Si ton métabolisme est de 1500 calories, tu manges 1200 calories, il va tendre vers 1200 calories. Et il va stocker plus de gras pour survivre.
Ouais.
Mais si tu y en donnes 1500, 1550, qui n'est pas privé et que tu bouges, il va se servir de tes lipides, de tes gras, pour produire de l'énergie, tu vas maigrir. Mais c'est tellement difficile parce que là, on a mis les gens dans la croyance qu'un comportement de suppression comme une diète ou un régime va fonctionner. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont obsédés, pourquoi ils ont des rages de faim. Mais si tu fais juste penser à ton ours blanc toute la journée, tu fais juste penser à ne pas manger, à ne pas avoir faim, il arrive un moment où dans ta journée, c'est peut-être 6 heures le soir, tu rouvres l'armoire et tu manges tout ce qu'il y a là. Et là, tu te sens coupable. Tu te dis, oh, méchant moi, je suis tellement pas bon. Mais c'est pas que t'es pas bon. Ton corps a juste fait ce qu'il fallait qu'il fasse, te nourrir, rentrer des calories. Et toi, là, t'es rendu qu'en plus d'avoir été obsédé toute la journée par ça, tu te sens coupable. Quelle foutue vie de merde! As-tu envie de vivre comme ça toute ta vie? Si la réponse est non, t'arrêtes les diètes, t'arrêtes les régimes.
Ouais.
Et tu sais en plus que ça ne fonctionne pas.
Oui, ça, tu l'expliques à tes clients quand ils viennent te voir.
Oui.
Ouais.
Mais cette semaine, encore, trois de mes clients, j'ai été obligé de battre, là. T'es pogné, prendre par le collet, là. Je t'ai dit que c'est 1500 calories, t'en consommes 1200. Pourquoi?
Toi, tu en fais prendre plus, tes
clients. Oui, ben oui.
Ben, parce que normalement, toi, t'as un système que t'as mis en place qui fait en sorte qu'à long terme, les personnes commencent à perdre du poids, puis ça va se continuer dans le temps.
C'est ça.
Toi, tu leur dis pas, prive-toi pendant deux semaines, tu vas maigrir.
T'sais. Mais juste te dire, là, ils savent là, que c'est ce langage-là. Ils savent pertinemment qu'ils sont rentrés dans le programme, mais ils croient tellement aux diètes encore, ils ont tellement peur d'engraisser, qui se maintiennent à 1200 calories. Je t'ai dit, il faut que tu manges 1500 calories pour maigrir. Vas-tu le manger? Qu'est-ce que tu comprends pas? Oui, mais Denis, j'ai peur. Hey, tu passeras pas, tu prendras pas 25 kilos en une semaine. On teste là pendant deux semaines. Si tu prends 0,5 kilos, on s'entend-tu qu'on va l'ajuster, ton programme?
Ben oui.
Mais les gens ont tellement peur, sont tellement dans un monde d'obsession, de peur irrationnelle, que tu les amènes dans un monde de logique physiologique. Et ce qui gagne encore, c'est la vieille foutue mentalité.
Doc Boucher, j'ai vu quelque chose passer. Je me suis dit, il faut que je parle de ça au Doc.
Vas-y.
Je me suis mis une petite note ici quand tu me parlais tantôt. J'ai vu une entrevue avec l'acteur qui personnifie Superman. Il t'a un corps d'Adonis.
Ouais. Henry Cavill.
Ouais, c'est ça, lui.
Oui.
Fait que, tu sais, il y a un corps d'Adonis, il y a 6 packs, mais je pense qu'il y en a 8. Là. D'ailleurs, toi, quand tu voyais les cadavres, ça existe-tu, 8 packs, là?
Ça, ben, on dirait que lui, il y en a 8. Ouais, c'est ça, t'es vu jusqu'en bas, là.
Ouais, c'est ça. On dirait que lui, il y en a 8. Puis il disait que son secret à lui, là, c'était de manger des protéines. Puis avant de se coucher, il prend un shake de protéines.
Ouais.
OK, ben t'as peu, là. Moi, c'est pas ça, là. Moi, avant de me coucher, moi, je me dis tout le temps, mon dernier repas de la journée, c'est mon souper. Après ça, je remange, mettons, 12 heures plus tard. Fait que je vais déjeuner 12 heures plus tard. Lui, il fait le contraire de ce que moi, je pense. Fait que ça marche pas, là.
Mais non, toi, t'as des croyances. Lui, il y a une équipe en arrière qui l'a basé sur des faits scientifiques.
Je pense qu'ils appellent les spécialistes. Quelque chose
ça se peut bien.
Tu dois pas valoir de la merde, ça.
Prendre, pas de la merde, pas tout. Prendre des protéines avant de te coucher.
Ouais.
T'es absorbes le mieux dans la nuit.
Ben voyons donc.
Ben oui. Fait que pour ça, quand vous me parlez, tout le monde me parle de diète, de comment ça se dit, jeûne intermittent.
Ouais.
Je pars à rire. Parce que ça va pas. OK, ça peut aider quelqu'un à contrôler ses comportements.
Ouais.
Mais si tu y vas dans le monde de la performance sportive, tu peux pas être en jeûne intermittent. Pour moi, ça t'atteindra pas le maximum de potentiel. Et le corps que ce gars a, c'est qu'il sait s'entraîner. Mais il sait comment répartir, puis il sait que le soir, parce que quelqu'un lui a dit, prends des protéines le soir avant de te coucher, avant l'entraînement que tu fais, tu vas avoir une meilleure absorption durant la nuit, puis un meilleur impact au niveau de la construction musculaire.
Doc Boucher, on m'a toujours dit le contraire, sacrément.
Ben, qui t'a dit ça?
Jim, le gars avec des gros pipes qui prend des stéroïdes, il dit,
c'est ça.
Si tu manges avant de te coucher, là, ça c'est pas bon, parce que là, tu vas accumuler,
Ben oui, Mandy, d'où il a pris ça? Et la dernière recherche scientifique qui a démontré ça.
Je vais le perdre là.
C'est fini, là. C'est fini. Okay. C'est un monde de croyances.
Fait que quelqu'un qui s'entraîne là, pour avoir une forme olympique, là, puis qui mange convenablement, qui va te rencontrer, puis tu gardes, Denis, peux-tu me dire qu'est-ce que je devrais faire? Toi, tu lui montres tout ça.
Oui.
Tu pourrais y conseiller, garde, si tu veux continuer à conserver ton corps d'Adonis, prendre un shake avant de te coucher, c'est bon.
Oui. Puis prendre une composition glucides-protéines dans l'heure qui suit un entraînement, c'est excellent.
Puis...
C'est pour ça qu'ils ont fait la pub sur le lait au chocolat.
Ouais.
Tu comprends? Mais là... Mais
moi, tu m'as allumé sur des affaires. Là. À cette heure, je me prive plus parce qu'avant, je me privais. Là. Mettons, je revais de jouer au hockey. Là.
Ouais.
Mon cerveau disait, mange pas de cochonnerie, tu vas scraper.
Oui.
Mais mon corps disait, man, ça te prend du sel, ça te prend du sucre.
Absolument.
On dirait que je venais avec une rage de sucre, rage de sel.
C'est évident.
Ben, je le sais. Mais moi, là, tu sais, je me disais, OK, t'as peu, là. Mes croyances me disaient, non, tu vas te faire du sport, va pas te crisser ça dans le corps, ça va tout scraper ce que tu as fait. Mais ton corps en a de besoin. Ben
oui. J'ai un de mes clients cette semaine, c'est un coureur. Il me dit, Denis, il dit là, dans mon entraînement, je suis rendu, je dépense 800 calories à l'exercice. Je peux pas manger 800 calories de plus dans ma journée. Ben, j'ai dit oui. C'est ce que je t'ai envoyé dans ton rapport, c'est ce que je t'explique depuis le début. Ouais. Et je vais pas engraisser. Non, non, tu vas perdre du gras, tu vas construire ta masse musculaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que tu dois comprendre aussi, quand tu t'entraînes, tu vas avoir des micro-lésions qui vont se faire au niveau des tendons, au niveau des fibres musculaires. Il faut que ça guérisse, ces choses-là. Comment ça guérit? Ça guérit avec l'énergie. D'où vient l'énergie? De la bouffe que tu prends. Donc, tu t'entraînes, tu manges pas assez, tu t'épuises, tu n'as pas assez d'énergie pour reconstruire tes fibres musculaires, reconstruire tes réserves énergétiques, et tu te demandes pourquoi tu te blesses.
Hey, tu viens de résumer les 30 dernières années.
Bravo, mon champion. Bravo, mon champion. Non, mais avoue que c'est simple, Yannick, ce que je viens de t'expliquer là.
Ben, c'est simple pour des gens qui s'y connaissent. Là. Toi, les gens qui s'en vont te voir parce que tu as des connaissances. T'sais, on t'appelle Doc Boucher. Tu as quand même été à l'école, tu en as appris, tu as étudié. Puis là, ben toi, tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, on m'a toujours dit le contraire. Le gars qui avait des pipes et qui avait des trapèzes à la hauteur de ses oreilles, là, qui trichait en s'injectant
des stéroïdes, des hormones de croissance. Là.
Lui, il me disait, mange pas avant de te coucher, là, ça, tu vas accumuler du graisse. La graisse, c'est pas bon. Moi, j'aurais donc.
Hey, je vais te raconter une autre histoire. Je sais pas, j'ai le temps, là, Yannick. Là,
pourquoi t'es pas arrivé dans ma vie avant? Je t'écoutais sur XM dans le temps.
Il y a sur LinkedIn, il y a un médecin quelque part qui dit.
Oui.
Il y en a des épais sur LinkedIn aussi. Là. Il y a un médecin qui dit, écoutez, boire un jus d'orange, c'est pas la même affaire que prendre une orange. Et l'épais dit, le médecin est un con. Il dit, une calorie, c'est une calorie. Une calorie de jus d'orange, c'est une calorie de ton orange. C'est la même affaire. Non, pas en tout. Ça n'a pas le même effet métabolique. Parce que quand tu prends une orange, ton corps va la dégrader. La vitesse à laquelle les glucides vont diffuser dans ton corps vont être beaucoup plus lent que si tu prends un jus d'orange. Le jus d'orange va t'amener un pic d'insuline pour que tu absorbes les glucides qui sont rentrés rapidement en circulation.
Mm-hmm.
Ton pic d'insuline fait stocker du gras. Donc, ce que les gens oublient, c'est que ce n'est pas une calorie égale une calorie. C'est qu'une calorie, quand elle rentre dans ton corps, elle a un impact métabolique très différent d'une autre calorie. C'est ce qu'on appelle la distribution des réserves énergétiques. Donc, une calorie peut faire en sorte que tu vas prendre cette énergie-là, tu vas l'envoyer davantage à tes muscles et au foie pour la gestion de l'énergie.
Ouais.
Ou cette calorie-là, qui est en sucre rapidement absorbable, va en une distribution de l'énergie vers la zone de stockage qui sont tes cellules adipeuses. Et le monde qui pense en calories pour la perte de poids depuis des années, depuis 1940, se trompe littéralement. Et j'ai des discussions sauvage des fois avec d'autres scientifiques qui n'ont pas étudié dans mon domaine et qui croient fermement que ça fonctionne en termes de calories in, des calories que tu entres et des calories que tu sors. Non, il y a tout le chemin en arrière. Ouais. Et c'est pour ça que dans le programme que je fais, c'est ton équilibre des réserves énergétiques, c'est ce qui va déterminer comment ton métabolisme va réagir et s'il va brûler du gras ou non.
Mais tu l'as dit, c'est la différence entre les croyances et les connaissances.
Oui.
Voilà, tout simplement. Tu voulais me parler de Pierre Lavoie qui a fait une lettre ouverte là, concernant les investissements en prévention.
Oui. Hey, Pierre, c'est un gars que j'admire pour ce qu'il fait. Vraiment.
Lui, c'est un intense, là.
Ouais, ben Pierre, c'est un athlète, c'est un triathlète. Ouais. C'est comme, c'est, comment je pourrais te dire, c'est le summum du monde du sport là, dans sa mentalité. Dans, il a gagné l'Ironman à Hawaii. C'est un genre de personnage, c'est un sur je ne sais pas combien. Il
faut avoir un mindset assez fort. Là.
Oh, il faut être vraiment. C'est quelqu'un d'impressionnant. Et tout ce qu'il fait pour la promotion de l'activité physique et de la santé, c'est super. Dans sa lettre, là où je diverge, c'est qu'il fait un appel au gouvernement pour investir dans la prévention. J'ai aucun problème avec la prévention, puis je pense que ça devrait être fait depuis longtemps. Le problème, c'est que si le gouvernement investit de l'argent, ils vont investir de l'argent, ils risquent de la pitcher partout. Donc, tu n'auras pas une structure de prévention qui va être scientifique et efficace. Participation. Mm-hmm. Je ne sais pas combien d'argent ils ont mis dans la promotion de l'activité physique. Est-ce que ça a changé quelque chose? Zéro, puis une barre. À un moment donné, il y a 15 ans, je pense, quand j'étais à XM, il y avait le petit bonhomme bleu qui ont sorti pour promouvoir, je ne sais pas si ça te souviens de quoi, un petit bonhomme bleu qui ont sorti, un gars habillé en bleu pour promouvoir l'activité physique, zéro.
Ça se peut-tu que ce soit Vas-y?
Ça se peut.
Sérieux, des fois, il y a de la synchronicité qui me fait peur, là. Le comédien Vas-y s'entraînait avec moi à ma tête.
Arrête!
Au deuxième appareil.
Ben voyons donc.
Je vais le regarder comme une fois, je me suis dit, il dit
peux-tu quoi, demander qu'il demandait qu'il m'envoie un autographe en bleu?
Si c'est Vas-y! Ben, il était au Nautilus juste ben,
c'est
à côté.
C'est bien bizarre.
Ben, c'est bizarre, certain. Que tu me parles de ça.
Bon, voilà. Je veux dire,
les chances que ça arrive et que quelqu'un me parle de Vas-y, tu m'en parles dans la même journée.
Hey, tu lui diras qu'une chance qui a été payée parce que ça n'a rien donné.
Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Je sais que la dernière fois que je l'avais vu, il était comme à Salut Bonjour Week-end. Il venait faire des petites chroniques.
OK,
là.
OK.
Il n'est pas devenu comme Arthur.
J'écoute, je savais même pas c'était qui le comédien. Là. Toi, tu le connais. Moi, j'en ai aucune idée.
Je le connais de vue. Là. J'ai pas parlé. Là. J'ai pas dit Hey, vas-y. Mais...
Non, non. Ah, ben, écoute, c'est vraiment trop bizarre, ça.
Pourquoi on est tombé là-dessus?
Ben, c'est parce qu'on parlait de Pierre Lavoie. Ouais. Et donc, tant qu'on n'aura pas une structure scientifique de prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut améliorer dans la société, comment on va le mesurer et ouais. Quelles sont les interventions qu'on doit faire pour arriver à cet objectif scientifique, il n'y a jamais rien qui va fonctionner. Et l'autre problème, dans le langage, c'est qu'on remet la responsabilité de tout ça au gouvernement. Quand moi, je remets la responsabilité de tout ça aux humains qui gèrent leur corps.
Mm-hmm.
Ton corps, c'est le seul que tu vas avoir dans ta vie. Tu es le seul à pouvoir le gérer. Et on a-tu besoin vraiment de promotion pour dire aux gens, faut que tu manges plus de fruits, faut que tu manges plus de légumes, faut que tu fasses d'activité 150 minutes par semaine, faire attention à pas trop de viande, pas trop de fast-food. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus que ça dans la vie? Non. Pourquoi les gens ne comprennent pas le message? Parce qu'il y a plein d'autres facteurs dans la prise de poids, dans la sédentarité,
ouais.
En arrière-plan, dans le cerveau des gens, qui fait que les gens ne le font pas. Et est-ce qu'on comprend tout ça? Non, on ne le comprend pas sur le plan scientifique. Bien qu'il y a énormément de scientifiques qui pensent avoir la vérité, je peux te dire que c'est tellement complexe qu'avant que tu aies un programme uniforme qui va fonctionner pour tout le monde, c'est pas vrai. Il va probablement falloir que tu en aies 10 différents. Alors, bien que j'admire Pierre Lavoie, je sois d'accord avec le fait qu'il faut de la prévention, il ne faut pas que le gouvernement investisse de l'argent comme ça juste pour se débarrasser du problème et dire « Hey, on a investi en prévention. » Si on veut vraiment changer la société, ce qui va se faire sur 2-3 générations, voici scientifiquement ce qu'il faut faire. Et le meilleur moment pour faire ça, c'est quand la jeunesse, quand dans le bas âge. Essaye de faire ça pour passer 17 ans, c'est trop tard. Là. Entre 17 et 30 ans, la plupart des gens qui n'ont pas acquis de bonnes habitudes de vie ne feront rien. Ils vont se dégrader là.
OK.
Et ça va arriver plus tard après qu'ils vont changer. Là, tu as un gap. Si tu veux, il faut que tu le fasses très tôt. Mais il faut que tu aies, oui, le gouvernement, il faut que tu aies l'implication des parents. Mais encore, je reviens à ma phrase aujourd'hui, chers parents, merci de préparer mes clients du futur. Les comportements des parents se transmettent aux enfants. Et les parents veulent-ils changer leurs habitudes de vie afin que leurs enfants ne deviennent pas de futurs obèses? Et est-ce que la prévention et la promotion de la santé et de l'activité physique vont faire en sorte qu'on va réussir à changer la vision de des parents? Le chemin, là, vois-tu comment il est long?
Oui. Je te pose une question perso un peu. Moi, quand je me suis séparé, j'ai commencé à faire mon épicerie. Parce qu'avant ça, c'était pas ma tâche. Moi, je faisais les estis de toilettes. Je fais tout le temps les toilettes, d'ailleurs, chez nous, quand je fais le ménage. Là, on dirait que les filles, il y a des filles qui ne veulent pas faire les toilettes. Fait que moi, je fais les toilettes. Puis, c'était pas moi qui faisais l'épicerie. Quand je me suis séparé, j'ai commencé à faire mon épicerie. Donc, voir le coût des différents aliments et tout ça. Avec la pandémie, bon, ça a monté. Ouais. Là, l'inflation, ce qui arrive là présentement, c'est pas drôle à voir. Tu vas faire des petits achats à l'épicerie pour ton souper du soir. Tu sors de là, 70$. J'ai rien, Doc.
Oui.
J'ai rien. Ça te fait-tu peur, toi, en tant qu'expert, là? Ça te fait-tu peur de voir que le coût des aliments a explosé?
Ouais, ben, écoute, oui, c'est plate pour tout le monde, mais je pense que les gens pour qui la santé est une valeur importante, l'alimentation, ils ne changeront rien.
Non.
Ils vont investir dans ce qui est important. T'investis dans ce qui est important pour toi. Dans cette période-ci, qui s'est empêché de s'acheter une nouvelle voiture? Il y en a plein qui se sont achetés une nouvelle voiture. Qui est allé s'acheter un VR? Il y en a plein qui sont allés s'acheter un VR. Qui va s'acheter des pneus d'été à 800$ pour les 4 pneus? C'était une bonne gang. Alors, tu es capable de me dire que toi, ton budget, tu es capable de le répartir partout et que tu viens chialer pour ce que tu mets dans ton panier quand tes pneus, ça ne te dérange pas? C'est une question de valeur.
Ouais, de l'autre côté, tu sais, je parle pas vraiment des familles bien nanties. Là. Je parle des familles qui sont peut-être moins bien nanties.
Ben, les familles moins bien nanties sont les familles moins bien nanties qui n'ont pas de bons comportements vont maintenir les mauvais comportements. Mais les familles moins bien nanties vont, d'après moi, mieux gérer. Vont faire attention. Vont couper sur des extras que qui sont pas nécessaires.
T'sais, moi, j'avais une mère qui était pas super bien nantie. C'était une mère monoparentale. Puis quand elle faisait des achats, moi, de la Macédoine, là, c'était mes légumes. Ouais. Les pois verts, c'était mes petits pois verts. J'avais des fruits aussi au travers de ça. J'ai l'impression que les gens vont revenir un peu à ça pour essayer de donner le maximum pour leurs enfants. Mais il y en a qui vont opter pour la facilité, c'est-à-dire... Oh. Bon, quel accompagnement que je pourrais prendre? Oups, un sac de frites McCain à 5$, j'en ai pour 2-3 repas. Toux, je m'en achetais ça, je vais mettre ça dans le four. Merci, bonsoir, je vais donner ça à mes enfants. Ils vont peut-être utiliser le moyen facile.
Oui, possiblement. Mais si dans ta tête, tu comprends que la qualité alimentaire, c'est important et que tu maintiens les fruits, les légumes, quand même, tu auras une fois de plus de frites McCain dans la semaine pour un certain temps. Je pense pas que ce soit un drame. Mais c'est une question de valeur. Il y a des gens qui s'achètent des vélos à 12 000 piastres. Qui vont être... Moi, j'ai toujours dit, un petit papier à Baden, c'est un vélo à 12 000, ça reste un petit papier à Baden. Mais le gars, pour lui, c'est important, ce 12 000-là. Oui. Il va le dépenser. Quelqu'un pour qui la santé, c'est important, la qualité alimentaire, c'est important, il va s'organiser. Je te dis pas que ça sera pas tough. Je te dis pas qu'il pensera pas agir autrement. Mais je vais te dire que la majorité de ses comportements, même s'il y en a quelques-uns qui dérogent de ce qu'il fait, vont être principalement orientés vers le maintien de sa qualité alimentaire parce que c'est dans ses valeurs.
OK. Parmi tes clients, Doc Boucher, y en a-tu que c'est plus difficile que d'autres? T'sais? Moi, je sais que, bon, faisant de la radio le soir, de 18h jusqu'à 19h, il y a énormément de gens qui sont dans le retour à la maison, mais il y a beaucoup de travailleurs qui sont sur la route présentement. Pensons aux camionneurs. Est-ce qu'eux autres, c'est une catégorie de personnes que c'est un peu plus difficile quand ils vont te rencontrer pour ce qui est de leur repas? Parce qu'eux autres, je veux dire, il faut qu'ils mangent 3 fois par jour, mais ils sont sur la route tout le temps.
Ouais. Écoute, je vais t'en compter une, parce que tu me rappelles un client. Le client, c'est un camionneur. Il est sur la route. Donc, lui, je lui demande combien de fois tu arrêtes d'un truck stop dans la journée. Puis, il m'explique son affaire. Je dis, parfait. Je dis, écoute, voici ce que tu dois manger en calories, protéines, lipides, glucides. Moi, je leur donne pas de bouffe à manger. Là. Tu gères ton affaire à ta manière. Le gars, il a un réfrigérateur dans son camion.
Ouais.
Le dimanche, je préparais toute sa bouffe. Ça, c'est mon plat Tupperware pour mon spaghetti. Ça, c'est mon plat Tupperware pour ma sandwich. Il a tout calculé. Le gars, il avait sa bande élastique. Puis il avait tout préparé ses collations. Ça, c'est mon tiers de tasse de noix qui est dans un petit sac comme ça, mon tiers de tasse de cachou qui est comme ça.
Ouais.
Et le gars, il mangeait tout le long, tout ce qu'il avait à manger. Il arrivait dans un truck stop, il allait faire son 15 minutes de marche. Dans le truck stop, dans la fréquence cardiaque que j'y avais donnée.
Mm-hmm.
Il partait, il arrêtait plus loin, truck stop, puis t'as 15 minutes d'entraînement musculaire. Il attachait sa bande sur sa bande élastique sur sa poignée, il faisait ses exercices. Mes camionneurs, mes gens de la route, ça a toujours été ça. J'ai des gens qui ils vont suivre les programmes d'exercice en ligne que j'ai dans les chambres d'hôtel. Tu sais, t'as pas de limite aujourd'hui.
Quand tu veux, t'es capable.
Puis même si t'es au restaurant tout le temps, tu es capable de faire des bons choix. J'étais au restaurant après-midi. J'ai pris de l'aigle fin. Il y avait des légumes. Il y avait des patates en purée. Mm-hmm. Puis j'avais une soupe aux légumes. Je peux pas demander mieux.
Là, tu as dit quelque chose qui me fatigue. Là.
Ah oui, quoi?
Moi, quand je marche, là, j'ai l'impression que je fais de l'activité physique. Là. Puis là, toi, tu me dis fréquence cardiaque.
Ouais.
Si, admettons, j'ai pas la bonne fréquence, ça fonctionne-tu pareil, ma marche?
Faut que je t'explique. Quand les gens embarquent dans mon programme, ils font un test de marche. Et ce test de marche-là, il est progressif et il me donne une évolution de leur fréquence cardiaque. Cette évolution de fréquence cardiaque-là me permet de déterminer la fréquence à ne pas dépasser pour rentrer dans l'essoufflement, l'utilisation des glucides. Je veux que ce soit mollo. Donc, si je dis à quelqu'un, voici ton programme et tu ne dépasses jamais 130 battements par minute, il ne sera jamais essoufflé. Il ne transpirera même pas. Donc, tout ce qui est en bas de 130 minutes, il brûle du gras. Moi, je veux que mes personnes brûlent du gras à l'exercice. Je ne veux pas qu'ils s'épuisent. Je veux pas qu'il brûle des glucides. C'est une transition.
Okay. Fait que dépasser 130 pour cet individu-là, il va s'épuiser en perdant du gras, toi, tu dis?
Non, il va s'épuiser en brûlant des glucides.
OK.
Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il reste toujours en bas de 130 pour qu'il brûle des lipides tout le temps.
OK. Fait que si je marche lentement, c'est correct quand même.
Oui, c'est correct.
OK, c'est beau.
OK. Courir 5 km, marcher 5 km, c'est la même dépense énergétique.
Ben non.
Ben oui.
Ben non, mon cœur travaille plus, je sue, j'arrive chez nous, est-ce qu'il faut que je me change?
C'est la même charge de travail. 5 km, c'est 5 km. 5 km, prends le même parcours en marchant, en courant, 5 km, c'est ta charge de travail.
Oui, mais mon cœur ne battra pas à même vitesse.
Ben non, je sais, mais c'est la même dépense énergétique. Tu vas courir ton 5 km en 30 minutes, mettons, tu vas le marcher en une heure.
Là, t'es en train d'enlever toutes mes croyances.
Je suis en train de te bosser ça sur le hein? Ça a même foutu de dépense énergétique.
OK.
Ben moi, je vais te la placer en plus long, puis ça va être plus cool, puis... C'est ça.
OK.
Donc, t'as même pas besoin de rusher, là.
Tu me convaincras pas facilement.
OK, allons-y. Okay.
Le lundi, je fais mon 5 km, puis j'y vais à marche.
Ouais.
On calcule ma dépense énergétique. Tu m'arrives avec un chiffre.
Ouais.
Le mercredi, là, si je me donne en malade, je fais le 5 km le plus rapidement possible. J'arrive au bout de mon 5 km.
Égal.
Je suis à bout de souffle, le cœur veut me sortir du corps. Je transpire, faut que je boive de l'eau, faut que j'arrive chez nous, je mange des chips, puis ça va pas, là. Je mange en manque de glucides, puis de sel, minéraux. Tu me dis que c'est la même affaire.
Ouais. La seule affaire qui a changé dans les deux situations, c'est le carburant que tu as utilisé.
Rends-tu compte, j'ai ri de mon père pendant tellement longtemps parce qu'il prenait des marches.
Ben oui. Puis il était probablement aussi en forme que toi.
Je m'excuse pour papa.
Dans les deux situations,
ouais.
L'affaire qui te donne l'impression qu'à la course, ça va mieux, c'est que t'as couru comme un fou,
ouais.
T'as carburé sur des glucides,
ben oui.
T'as produit de l'acide lactique, t'as transpiré comme un cochon, t'es arrivé épuisé et tu penses que c'est bon.
Exactement.
Là, toi, t'as pensé.
C'est une croyance.
C'est une croyance. T'as pensé, je suis... Je souffre, c'est efficace. Aucun foutu rapport.
Et vous l'aurez entendu dans Mars ce soir.
Exact.
Je pense à tous ceux qui sont dans le char qui se disent, mais voyons donc, c'est plein de logique. Mais, pourquoi il n'y a pas pensé
à ça? Ben oui, mais c'est ça les croyances. Puis moi, j'ai passé mes années à mesurer ça, quantifier, et pour me rendre compte que, pauvres gens sur la planète, qui souffre pour toutes ces croyances inutiles et stupides.
Moi, je pense surtout aux gars qui font le 100 mètres versus les Kenyans qui font 42 km.
Ben oui, mais tu sais qu'un Kenyan, là,
ouais.
Tu sais ce qui fait la différence? Moi, j'ai entraîné des gens...
J'entraîne en altitude.
Non, pas sur pantoute.
Ben oui, c'est ça, ils disent ça à télé. Arrête, ils disent ça à télé.
Ben oui, mais ça dure pas. Tu pars en altitude, tu reviens à terre ferme, ça dure pas 2-3 semaines, l'effet que t'as, là. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le carburant que tu utilises à l'exercice. Quand j'entraîne des gens en ultra-endurance, je les tiens dans la zone où ils brûlent du gras. Je te donne un exemple. Admettons que tu cours et puis à 12 km à l'heure, aujourd'hui, c'est ta zone de transition entre l'utilisation des lipides et l'utilisation des glucides.
Mm-hmm.
Tu as une réserve limitée de glucides. Tu as une réserve presque infinie de lipides.
Ouais.
Si je te garde ces lipides, tu vas courir longtemps. Si je t'entraîne toujours dans cette zone-là, et que ton 12 km avec l'entraînement devient 14 km, devient 15 km, devient 16 km, devient 17 km. J'ai un client aujourd'hui qui court à 17 km à l'heure et qu'il ne se fatigue pas. Donc, tu as le Kenyan qui s'est entraîné comme ça toute sa vie,
ouais.
qui arrive, qui est à 90 % de sa capacité maximale et qui carbure principalement sur les lipides. Lui, il court à 20 km à l'heure, il sourit. Toi, tu es en train de mourir parce que tu es sur l'autre carburant, qui est le glucide, où tu produis de l'acide lactique et tu es en train de t'épuiser. Lui, il court à haute vitesse sur des réserves qui sont les lipides, qui lui permettent de l'énergie pour des heures, des heures, des heures.
Tu viens de révéler le secret des caniers.
Je viens de révéler le secret des caniers.
Hey, j'ai entendu de quoi de pas pire. C'est un entraîneur de boxe qui entraîne Arthur Beterbiev, qui est un de nos champions québécois, qui vient pas d'ici, mais on l'entraîne ici, fait qu'on peut bien être un peu chauvin. Arthur Beterbiev, c'est une machine de boxe. C'est un gars qui a un QI de boxe qui est hallucinant. Mais c'est un gars qui, au niveau de sa structure, ses muscles, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus remarquable. Il a une vitesse de frappe, il frappe très fort. Mais j'imagine que la cage, elle doit être responsable un peu. Là. Il y a une structure particulière. Il s'est battu contre un gars qui, lui, c'était une montagne de muscles.
Ouais.
Il avait à peu près le même poids, mais c'était une montagne de muscles. Puis peut-être que sa structure, à lui, était plus petite à l'intérieur. Et le plan de match du coach, c'est Arthur, le gars l'autre bord, il est plus gros que toi au niveau de ses muscles. Il va se donner comme pas possible dans les premiers rounds, mais en raison de ses muscles, il va s'épuiser plus rapidement que toi qui en as moins.
Très intelligent comme observation.
Toi, tu savais ça, toi?
Ben oui.
Oh,
ton gars qui est musclé
ouais.
va miser sur sa force musculaire. L'athlète qui est là, lui, va miser sur sa biomécanique. Il sait que la puissance de frappe, c'est pas des muscles. La puissance de frappe, c'est ce qui part du sol passe dans la hanche, ce que tu transmets à tes bras. Son coach l'a probablement entraîné à exploiter une capacité biomécanique exceptionnelle. Donc, lui, il ne mise pas sur sa musculature, il mise sur la technique
ouais.
biomécanique qui amène la même puissance de frappe qu'à l'autre. L'autre, lui, étant gros et musclé, ils l'ont entraîné beaucoup en anaérobie, c'est-à-dire où il va s'épuiser rapidement. Et s'il veut gagner... Comme il n'est pas endurant autant que l'autre, il est obligé de tout donner dans un court laps de temps, en 3, 4 ou 5 rounds.
Ouais, il avait prévu 6, 7e round qu'elle allait commencer à ralentir.
Ben, c'est ça, tu vois. Donc, et là, à ce moment-là, lui, il a juste à tenir. Il a juste à l'esquiver. Il sait que les coups vont rentrer, vont être solides, mais il est capable d'absorber, puis il l'épuise comme ça. Et là, il arrive, et là, lui sort sa technique.
C'est ça. C'est exactement ce qui est arrivé.
C'est aussi simple
que ça. Ah, vous m'énervez.
Mais comment tu l'aurais interprété, toi?
En fait, ben, je ne l'aurais pas du tout interprété. Moi, j'adore regarder la boxe. Arthur Beterbiev, il a une technique juste incroyable. Là. C'est un des meilleurs boxeurs qu'on a eu au Québec. Il y en a qui disent Arturo Gatti, oui, c'était tout un boxeur, mais c'était un gars qui en mangeait pas mal plus souvent qu'il en donnait.
Ben ouais.
Puis la raison pour laquelle il était capable de passer au travers des individus, c'est que les gars s'acharnaient tellement sur lui parce qu'il y avait de l'impression que, tu sais, il avait une drôle de technique, il était capable de le frapper, mais le gars, il était pas couchable. T'sais, il se relevait tout le temps, puis il réussissait à gagner des combats par peut-être son mindset, là, je sais pas. Mais Beterbiev, c'est une machine de boxe, puis moi, ce gars-là m'impressionne. Puis quand j'ai lu ça, que son entraîneur était au courant de ça, que les muscles consommaient plus d'énergie que la structure du corps, puis tout ça, je me suis dit, il faut que je parle de ça au doc.
Oui, carrément. Puis ce que tu viens de donner, là, je te dirais que les athlètes d'élite se servent de la gestion de leur réserve énergétique. Pourquoi c'est intelligent ce que son coach fait? Il enseigne à son poulain, à lui, à gérer ses réserves énergétiques.
Ouais.
Ce que les autres ne savent pas. La plupart des athlètes s'entraînent. Je te dis, là, parce que j'étais dans le monde du sport professionnel, ce que tu dois avoir, tu dois, oui, t'entraîner, tu dois gérer ton alimentation, tu dois gérer ton sommeil, tu dois gérer ta récupération, tu dois gérer tes réserves énergétiques. J'en ai rarement vu faire tout ça dans le sport professionnel. Mais quand tu arrives à des niveaux de même où on dit au gars, tu vas gérer tes réserves énergétiques, tu arrives avec un athlète qui dépasse tout le monde. Parce que tu as compris quelque chose, le coach a compris quelque chose ouais. que la plupart des gens sur sa planète ne comprendront jamais.
Mark Ramsey, je ne veux pas rien y enlever, mais j'imagine qu'il y a des gens comme toi un peu dans son entourage.
Probablement. Là. Moi, j'ai travaillé avec des boxeurs professionnels. Puis écoute, on a travaillé vraiment, on n'a pas travaillé sa force musculaire, on a travaillé sa biomécanique de frappe. Puis à un moment donné, là, quand tu sens la biomécanique de frappe est correcte, mm-hmm. puis tu vois le gars rentrer dans le sac, là, puis tu entends ça, « Pow! » Hey, tu te dis, « Je voudrais pas être là. » et que je voudrais pas être là.
Doc Boucher, pour les gens qui aimeraient aller te rencontrer là, pour voir si tu pourrais pas les aider concernant leur perte de poids, ils peuvent te communiquer comment avec toi?
Bien là, ils vont sur denisboucher.com.
Ouais.
On a une session qui part le 1er mars prochain. Fait que les inscriptions sont en cours, ça se continue jusqu'à mardi 8h. Ils peuvent aller voir, il y a une vidéo qui explique le programme au complet. Il y a mon numéro de téléphone. Si les gens ne sont pas sûrs, peuvent m'appeler. C'est moi qui réponds. Puis je leur explique. Puis si, je suis toujours honnête, si je pense que le programme ne fonctionnera pas pour eux autres, je vais leur dire.
OK.
Parce que une réputation, c'est long à construire, mais ça se détruit vite.
T'aimes mieux pas prendre un client que d'avoir un client insatisfait.
Oui, exactement. J'aime mieux ça de même.
Toujours un plaisir de te rencontrer, puis on s'en jasera dans une couple de semaines. J'ai tout le temps des questions à te poser.
Mais c'était tellement le fun d'asseoir.
À chaque fois, tu m'en repêches ça dans la face. Mes croyances. Doc Boucher, merci.
Hey, salut, bye. Hey.
Marceau, le soir. La gestion des repas simplifiés, oui. Avec Tout Cuit qui vous offre de savoureux repas prêts à manger, livrés gratuitement de leur cuisine à la vôtre sans abonnement. Choisissez vos boîtes repas thématiques ou vos plats individuels et c'est réglé. Toutcuit.ca, une division du groupe Je reçois.
Toujours à la recherche d'activités uniques pour amuser toute la famille à la semaine de relâche? Planifiez votre visite au village nordique du Port de Québec. Tous les jours, du 3 au 12 mars, on vous invite à participer à de nombreuses activités et à venir vous amuser en famille dans notre aire de jeu. Il y a de quoi avoir du fun pendant des heures au village nordique. Réservez votre place dès maintenant en visitant le village nordique avec un cas.com. Un plateau sushi 40, 50 ou 100 morceaux. C'est parfait pour se rassembler autour d'un bon repas. Et pour encore plus de plaisir, Yuzu offre même des produits végés. C'est si simple de se faire plaisir. Commandez en ligne au yuzu.ca ou sur l'app Yuzu. Yuzu Sushi, c'est toujours bon.
Dans une station de radio, il y a bien sûr les animateurs. Mais il y a aussi une grande équipe qui travaille en coulisses. Ça vous dirait d'en faire partie? Leclerc Communication est à la recherche d'un rédacteur publicitaire qui aura à créer et superviser des campagnes publicitaire en étroite collaboration avec notre équipe des ventes. Notre nouveau collègue devra être créatif, positif et dynamique, en plus d'avoir un français impeccable. Vous vous reconnaissez?
Le poste de rédacteur publicitaire est parfait pour vous.
Relevez le défi. Postulez
au carrière.fm.
1-1-0-0-0-7-4-2-0-1.
82-68-99-49-84.
55 80 96 36 01.
La Régie du bâtiment du Québec, c'est beaucoup plus que des numéros de licence d'entrepreneur. C'est avant tout un organisme qui veille à la protection du public en contribuant à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Assurez-vous que votre entrepreneur a sa licence.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Alors voilà à tous un excellent vendredi soir. L'excellent Mathieu Marcotte s'en vient dans les prochaines secondes. Actuellement sur Québec, c'est un ciel dégagé. Par contre, cette nuit, il faudra faire attention. Ce sera pas chaud pour la pompe à l'eau, les amis. Un minimum de moins 26, mais avec le refroidissement éolien, ça va être une température de ressenti de moins 34, moins 35, moins 36 là, dans ces eaux-là. Donc... D'après moi, 20 piastres de gaz, ça va faire pour ce soir. Et demain, ce sera une belle journée ensoleillée avec un maximum de moins 13. Et dimanche, ce sera de la neige, maximum de moins 9. Donc, bon week-end. On s'en jase lundi à 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Salut, bye-bye.
Marceau le soir. Le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102.
Valérie Beaudoin, qui est chercheur à la firme Raoul d'Endurant.
J'aimerais te demander, est-ce que cette situation-là entre le Canada, la Chine, les États-Unis pourrait créer des tensions critiques entre les pays?
Bien, pour l'instant, je pense que ça va. Si la Chine décidait de se mêler de la guerre en Ukraine, oh là, ça devient encore plus compliqué. T'as le Canada, t'as les alliés européens, t'as à peu près la moitié de la planète qui est derrière les Ukrainiens. Et là, la Russie qui aurait l'aide de l'autre puissance mondiale, qui est la Chine. Là, ça devient assez délicat. Si on se rend compte que les engins qui ont été abattus dans les derniers jours, ça vient exemple tous de la Chine, je fais une hypothèse, ça commence à être des exemples qu'on teste les limites des radars, qu'on teste la limite des capacités militaires. Ça, ça pourrait être une indication que c'est pas nécessairement dans la bonne voie qu'on se dirige pour les relations de tout le monde.
Reg against le matin. En semaine, 5h55. Boulevard 102.1. C'est plus que du rock.
Offrez-vous un peu de réconfort avec un savoureux café de torréfaction supérieure McCafé chaud ou glacé format moyen à 1$ plus taxe. Faites vite, c'est seulement pour une durée limitée. Dans les restaurants McDonald's participants, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Trop de jeunes ne peuvent compter sur la présence d'un adulte significatif. Soyez ce modèle pour eux. L'organisme Grand Frère Grande Sœur recherche des bénévoles pour des activités et de l'accompagnement. Quelques heures font toute la différence. Inscrivez-vous québec.grandfrèregrandesœurs.ca.
Toi, chère langue, tu es pour nous ce que le soleil, la terre, l'air et l'eau sont à la nature. Tu apportes chaleur, énergie et nourriture. Tu fais rire, tu fais chanter et tu nous fais surtout grandir. Tu sais aussi bien nous unir que nous rassembler. Parler français, c'est vivre ici, chez nous, au quotidien, en français. Un message d'impératif français.
1-1-0-0-0-7-4-2-0-1
82-68-99-49-84
55-80-96-36-01
La Régie du bâtiment du Québec, c'est beaucoup plus que des numéros de licence d'entrepreneur. C'est avant tout un organisme qui veille à la protection du public en contribuant à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Assurez-vous que votre entrepreneur a sa licence.
Les condos locatifs L'Aromate à Sainte-Foy sont conçus pour les gens recherchant le bon goût et des espaces aménagés avec intelligence. Ils sont le fruit d'une longue réflexion sur le bien-être de ses occupants. Design moderne, ergonomie et matériaux de qualité sont au rendez-vous. Demandez une visite au vivezlaromate.com.
Quelle est la capitale du Bleuet?
Lac-Saint-Jean.
De l'assurance?
Hein?
La capitale de l'assurance, c'est Québec. Mise sur une formation primée et un emploi assuré avec l'AEC en assurance de dommages en virtuel de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy.
Vousbrillez.ca.
Économie familiale.
Ici Ricardo.
En compagnie d'Émilie, marchande IGA. Aujourd'hui, on vous donne notre secret pour bien manger à moins de 5$ la portion.
Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Bien sûr.
Carie de poisson au lait de coco.
Moins de 5$ la portion.
Porc à la clémentine.
Moins de 5$ la portion.
Pas de taille aux crevettes.
Moins de 5$ la portion.
Même avec les crevettes.
Hein? Même avec les crevettes.
Les valeurs sûres. Repérez les produits à rabais chez IGA. Cuisinez nos recettes et économisez. Détails sur IGA.net.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça. Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
C'est l'heure d'aller coucher les enfants. Le bonhomme débarque avec sa musique du diable.
This is the Prince of Darkness.
Voici le bonhomme 7 heures. Matt Marcotte.
Bon vendredi, c'est Matt Marcotte avec vous pour le bonhomme 7 heures et le 7 de 7. C'est quoi ça, les 7 plus grosses tonnes de la semaine à Boulevard 102.1? Boulevard, c'est une station rock ici à Québec qui vous offre non seulement des bons vieux classiques, mais aussi des nouveautés. Et parmi nos nouveautés, il y a des trucs vraiment, vraiment intéressants. D'ailleurs, aujourd'hui, parlant de nouveautés, il y a Godsmack qui a sorti une nouvelle tune, il y a Gorillaz qui a sorti un nouvel album aussi. On s'en reparle un petit peu plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, faisons le tour des 7 meilleures chansons de la semaine à Boulevard. Allez sur le blvd.fm, pouce en l'air sur les nouveautés que vous aimez. Celle-là, c'est un artiste qui vient du monde du country, mais qui a des influences rock aussi. D'ailleurs, le gars s'appelle RD et il a lancé un album qui s'appelle The Mockingbird and the Crow. Donc, The Mockingbird, c'est la portion plus country de l'album. En plein milieu de l'album, il y a une tune qui est The Mockingbird and the Crow, donc où ça switch. Et après ça, on y va plus dans le rock avec des tunes comme Jack, qu'on retrouve en 7e place cette semaine.
Le 7 de 7, nos 7 plus grosses tunes de l'antenne. Numéro 7.
Thank you.
kid, let me introduce myself. I was a friend of your dad's when he had no one else. I'll put the party in your life, boy, you know I can. Have you ever wanted to feel like Superman? Oh, oh. But if you stick with me, buddy, you can bet your life she'll be walking out with you by the end of the night. So don't listen to mama, hell, I ain't the devil. Ditch me when you wanna, but if you need a little, I can fix your problems, I always got your back. I can make you famous, by the way, my name is... me off. Say you're broken and you sold us and it's all my fault. So tell me, old friend, is it such a sin? All I did was make you happy, so to hell with them. And don't listen to mama, hell, I ain't the devil. Ditch me when you wanna, but if you need a little, I can fix your problems. I always got your back. I can make you famous, by the way, my name is...
Boulevard 102.1,
numéro 6.
Yeah.
7 de 7.
Les 7 meilleures chansons selon vos votes au BLVD.fm. Numéro 5.
I'm not afraid of the war you've come to wage against my sins. I'm not okay, but I can try my best to just pretend.